Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cet été, dans Histoire de savoir, sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, dans Histoire de savoir, donc vous allez pouvoir retrouver des podcasts qui ont été réalisés par des étudiants et des étudiantes en éducation spécialisée de la H2B de Fray. Et donc tout au long de ces écoutes, ils et elles vous feront découvrir le métier de l'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, et tout ça à travers différents concepts spécifiques du métier. Alors ça peut aller du mentor en passant par le référent, l'implication ou encore l'engagement. Je vous souhaite un très bel été et une bonne écoute.
Va voir ton référent. On a tous déjà entendu cette phrase, mais au fond, ça veut dire quoi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce mot qu'on utilise souvent sans vraiment le questionner, référent. Pour vous, c'est quoi un référent?
Pour moi, un référent, c'est une personne de confiance. C'est une personne avec qui me dit si ce que je fais est bien ou pas. C'est un peu comme ma référence, en fait. Un référent, c'est littéralement un adulte sur lequel je vais me baser. Et ça pourrait être mes parents, par exemple. Moi, ce serait mon père, mon frère. Dans la vie de tous les jours, c'est ça, mon référent.
Alors, pour moi, un référent, ce serait une personne sur qui on peut compter, ou en tout cas, on va se baser sur cette personne pour reproduire en tout cas des comportements qui sont acceptables, ou même avoir une maturité qui va arriver avec le temps. Ou en tout cas, on peut se confier à cette personne et se baser sur cette personne si on hésite dans certaines situations, ou en tout cas, si on n'arrive pas à déterminer si notre action, notre façon de penser est acceptable ou pas.
Pour moi, un référent, c'est quelqu'un ou quelque chose chez qui ou quoi on se réfère, qui est un peu une boussole pour nous et qui est une sorte d'exemple qui va nous aider dans la vie.
Un référent, c'est quelqu'un qui t'aide à trouver la clé qui est à l'intérieur de toi, mais il ne le fait pas à ta place.
Un référent, on peut le trouver dans diverses structures. Par exemple, un référent, c'est une personne sur qui tu peux compter, une personne qui peut te guider, une personne qui t'accompagne dans ce que tu fais. J'ai plus d'inspi, mais voilà la vision des choses.
Alors pour moi, un référent, ça va être quelqu'un qui va pouvoir me guider et m'aider face à un problème que je rencontre. Dans ma tête, quand je pense à un référent, je pense surtout à un référent scolaire. Dans d'autres cadres, je n'aborde jamais le terme de référent, plutôt guide ou quelqu'un qui m'accompagne. Mais référent, c'est plutôt dans le cadre scolaire. Et oui, c'est quelqu'un qui va répondre à des problématiques, à des questions que je me pose, me guider avec son expérience.
Pour moi, un référent, c'est une personne vers laquelle on se tourne quand on a besoin d'aide ou quand on rencontre un problème et qu'on cherche une solution.
Je pense qu'un référent, c'est une personne en qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un en qui on peut se tourner si on a des difficultés. C'est quelqu'un qui a plus de savoir que toi, je pense, et qui peut t'aiguiller dans ton chemin.
Pour moi, un référent, c'est une personne vers qui on peut se tourner lorsqu'on a besoin d'informations ou bien on a besoin d'aide. Une personne plus compétente que nous, entre parenthèses.
Est-ce que vous utilisez ce mot dans votre vie quotidienne?
Bien sûr, c'est l'élément phare de la profession d'éducateur spécialisé parce que ça permet au bénéficiaire qui est la personne concernée, ça permet qu'il devienne l'acteur principal de sa propre vie et non pas nous.
J'utilise pas exactement le mot référent, mais je pense qu'il peut être remplacé par ami, parent ou enseignant. Mais...
Le terme référent en tant que tel, je pense pas. C'est un mot assez compliqué, mais référence, une personne de confiance, moi, c'est des synonymes auxquels je pense. Et oui, j'utilise ces termes assez souvent. Ma personne de confiance, c'est mon pote Yacine, ou etc. En fait. Donc oui, dans la vie de tous les jours, je l'utilise, mais pas le terme tel quel.
Donc, je n'utilise pas forcément le mot référent, mais en tant que futur instituteur primaire, je me considère comme référent pour les élèves. Et j'essaie aussi qu'eux soient aussi des référents les uns aux autres, avec le tutorat ou quoi que ce soit. Donc, je n'utilise pas le terme référent, mais ça, c'est un peu en orbite dans ma vie et tout, et dans comment je vois les choses.
le mot référent, pas spécialement, mais quand je dis je me réfère à plein de choses dans ma vie. Pour ma question de morale, par exemple, je me réfère à plein de choses. Donc, même à mon père ou à ma mère, je me réfère à eux concernant plein de choses dans ma vie. Donc, ce sont en quelque sorte mes référents.
Donc le terme référent lui-même, c'est pas forcément un terme que j'emploie au quotidien, mais je me réfère très souvent aux personnes, enfin surtout par exemple dans le cadre de mes stages, etc.
Selon vous, un référent c'est plutôt une personne, une idée ou un modèle ?
Bah c'est une personne qui peut devenir un modèle et sur qui je peux m'appuyer. Enfin pas moi personnellement, mais tout dépend du contexte. Si j'ai un référent dans un lieu de stage, bah c'est une personne et un modèle qui représente des idées.
Alors, un référent pour moi, ce sera en général une personne, donc ce sera quelqu'un qu'on va assez bien connaître, ou en tout cas quelqu'un qui nous aura vu grandir, qui nous aura vu évoluer, etc. Maintenant, je sais que voilà, il y a des personnes, que ce soit aux États-Unis, en France ou même de manière internationale, qui se réfèrent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas spécialement, notamment des célébrités, etc. Mais pour moi, le plus important, ce serait quelqu'un qu'on connaît ou qui nous connaît aussi, parce que ça a plus de sens, ou en tout cas, on peut en retirer quelque chose si c'est quelqu'un qu'on connaît.
Bah, c'est vrai que avec cette question, je peux penser à la question de référent comme un modèle dans l'art ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand la première fois que j'ai entendu le terme référent avec vous, bah, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est forcément le référent étude, c'est-à-dire la personne humaine qui est là et qui écoute nos problèmes et à qui on demande des solutions. Mais c'est vrai que oui, bon, quand on dit référent, c'est vrai que c'est beaucoup plus large. Mais dans ma tête, ça s'emploie jamais, quoi. Je veux dire, quand je vois une forme de référence dans l'art, j'appelle plutôt ça un modèle. J'ai d'autres mots pour appeler ça comme ça. Mais pour moi, la référence, c'est vraiment quelque chose de très physique, d'humain. Et c'est vraiment l'enseignant, quoi. C'est le guide. Mais sinon, non, ça s'arrête là, quoi.
Je pense qu'un référent, ça peut être une idée ou un modèle, justement, parce que ça peut être une règle, par exemple. Ma référence, c'est, d'un point de vue religieux ou d'un point de vue juridique, la loi ou le Coran, pour moi, vu que je suis musulman. Et donc, ça peut être une idée générale. Donc, un référent, ça peut être une personne ou une idée, tant qu'elle est bien exprimée et qu'elle est bien claire, en fait.
Je pense qu'un référent, ça peut être les deux, parce qu'une personne peut être un modèle et on peut être... Tout est un peu interconnecté, je pense. Mais je pense que ça passe plutôt par une personne qui est un peu comme pionnière et qui vient avec un modèle ou une idée, blablabla. Et donc, ouais, je dirais que c'est plus une personne, mais ça peut être les deux. En fait, c'est vraiment trop interconnecté à mon goût. Donc, voilà.
Pas forcément, ça peut être une personne, mais aussi des valeurs qui peuvent guider notre comportement auxquelles on se réfère pour, par exemple, prendre une décision.
Est-ce que tout le monde a besoin d'un référent dans la vie ?
Je pense que oui, inconsciemment, on en a tous un ou une. Enfin, que ce soit nos parents, par exemple, via l'éducation, ou bien même les valeurs. Et inconsciemment, on va suivre ces valeurs-là, ou bien des conseils, ou via notre éducation qu'on a eue, qui va influencer notre vie quotidienne.
Je pense que oui, tout le monde a besoin d'un référent, d'une certaine manière. Après, je reviens par rapport au fait des cours. Avant de devenir prof, j'ai dû être formé par d'autres profs, donc il y avait une personne référent. Et, enfin, ça fait comme le truc de poupée russe, quoi. Donc il y a un prof qui est devenu prof, qui a fait un prof. Enfin, il y a pas vraiment de. On a toujours besoin d'un référent, je pense. Et même, je pense, les gens qu'on considère un peu les grands de ce monde, que ce soit les artistes ou les grands sportifs, ils ont besoin de personnes de référence pour continuer à fructifier les choses et tout. Donc, je pense que oui.
Alors, oui et non. Ça dépend de ce qu'on vit, de si jamais on est vraiment prêt à se confier à quelqu'un ou à être prêt psychologiquement ou on est disponible à faire une pratique et à faire confiance à un médium, parce que il faut avoir une certaine estime de soi et confiance en soi pour pouvoir se donner un peu à l'autre. Alors, oui et non. Ça dépend de ce qu'on vit, de si jamais on est vraiment prêt à se confier à quelqu'un ou à être prêt psychologiquement où on est disponible à faire une pratique et à faire confiance à un médium, parce qu'il faut avoir une certaine estime de soi et confiance en soi pour pouvoir se donner un peu à l'autre.
Je pense que oui, tout le monde a besoin d'un référent dans sa vie, parce que sinon on aura du mal à se questionner sur ce qui est bien et ce qui est mal. On a besoin de quelque chose comme un phare dans l'océan. On a besoin de quelque chose où aller, savoir où aller, savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc je pense que tout le monde a besoin d'un référent, qu'il soit physique ou une personne ou un objet ou peu importe. Selon moi, ce serait plutôt une personne. Mais quand je dis une personne, ça peut être deux personnes. Pour moi, par exemple, c'est mes parents qui seront mes plus gros référents. J'ai la chance d'avoir une bonne référence grâce à mes parents. Et donc, je me réfère à eux pour toutes les choses un peu dans ma vie, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc voilà, c'est un peu mes référents. Je les vois comme une personne.
Pour moi, oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est important d'avoir un référent, parce qu'on ne sait jamais avec les réseaux sociaux, etc. Je trouve que il y a toujours une personne qui pourra toujours mieux nous conseiller, ou en tout cas toujours nous donner un avis qui est sincère et qui est mature, entre guillemets. Et puis c'est important aussi, on le voit avec la nouvelle génération qui se fait influencer très rapidement, donc il faut toujours avoir quelqu'un sur qui on peut compter, surtout on peut aller chez cette personne en disant est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas. Et on le voit avec même les enfants qui n'ont personne qui s'occupe d'eux. On se rend compte qu'ils vont se référer à quelqu'un, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours des bonnes fréquentations. Donc, il faut faire attention sur ce coup-là. Mais en tout cas, oui, c'est important d'en avoir un.
En fait, pour moi, je pense que toute personne sur Terre a besoin d'un référent, tel qu'il soit, parce qu'on va toujours arriver à un moment de notre vie où on ne peut plus se suffire à nous-mêmes et où on a besoin donc, de l'aide d'autres, mais ça peut être une personne physique ou non.
Mais finalement, est-ce que cette perception correspond à la réalité du terrain ? Pour le savoir, on est allé poser la question à des professionnels.
Voilà, moi je suis éducatrice en pédopsychiatrie dans une unité jeunes adultes, donc de 16 à 23 ans. C'est une unité de 10 patients. Et donc la définition du référent chez nous au milieu hospitalier, donc nous, en tant que référent, le patient arrive pour sa durée pour son hospitalisation de 3 à 4 semaines ou 2 semaines en crise, quoi. Et il aura d'office 2 référents qui seront attribués. Mais il a le droit, le patient a le droit de dire que voilà, moi je veux 2 femmes, moi je veux 2 hommes, voilà, par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. C'est toujours possible de changer et de faire au mieux pour le patient. Et le référent, il va être là pour tout ce qui est alimentation, hygiène, le quotidien, la vie journalière en tout cas. Et on sera aussi une personne de confiance. Donc si maintenant le patient a du mal à faire confiance aux adultes ou à s'ouvrir aux autres, ou voilà, il se rattache toujours à se dire « bon ben voilà, mon référent il est là ». Avec lui, j'ai confiance. Avec lui, j'ai un rapport qui est bon. Et donc, il peut se dire, ben voilà, mon référent, il est là demain. Je vais lui parler demain. Ou cet après-midi, peu importe. Et donc, nous, quand il est là, on va avoir des entretiens avec le patient, mais seul. Donc, ça permet d'être vraiment, d'avoir un moment individuel et de pas avoir une activité ou d'être avec les autres patients ou autre, et où là on va commencer à discuter de comment ça se passe à la maison, l'hygiène, comment ça va à l'extérieur, qu'est-ce qui est difficile pour toi, on va parler, on va demander pourquoi tu es là, qu'est-ce que t'aimerais si pour te faire hospitaliser, mais c'est quoi pour toi le après, quoi, quel est l'objectif. Voilà, et aussi l'alimentation évidemment, la vie quotidienne, les stimuler pour ranger leur chambre, pour faire des machines, pour se laver, pour manger, enfin, voilà. Donc le référent, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout aussi une personne de confiance pour nous, en tout cas chez nous, les jeunes qui ont du mal à faire confiance aux adultes. Donc l'émission, ça sera, pour moi en tout cas, pour moi c'est de veiller à ce que le patient passe une bonne hospitalisation, en tout cas que son hospitalisation se passe bien, parce que c'est déjà pas facile. Et on va être là aussi donc pour voir si ça se passe bien, mais aussi pour qu'on le stimule, qu'il soit stimulé à faire des choses pour la sortie, quoi. Donc on doit aussi quand même préparer la sortie. Il n'y a pas que le pendant, il y a aussi le après. Et donc on peut mettre des choses en place avec, avec le patient pour voir comment ça se passe dans le futur et surtout... Quand il va chez lui, bon, bah, qu'est-ce qu'il peut faire quand il est en crise, quand il va pas bien, quand il a du mal à aller à la douche, enfin voilà. Donc les missions, oui, ça sera l'hygiène, l'alimentation, la vie quotidienne, le fait de se responsabiliser, le fait d'essayer de prendre des décisions, ou enfin voilà.
Je ne sais pas si j'ai la définition exacte du mot référent, mais ce que je sais ici du poste que j'occupe, c'est quand on est référent, c'est la personne de liaison entre le patient et les médecins. Et donc, on a aussi le rôle d'être disponible pour le patient. On doit faire quand même des entretiens avec le patient deux fois par semaine. Hein. Quand le patient n'est pas suivi, n'a pas son jour de thérapie au niveau psychologue et psychiatre, on est là pour l'écouter et pour l'accompagner dans sa problématique et dans ses crises. Quand on n'est pas là, on a aussi le rôle de référent de soutien pour les personnes, pour les patients qui ne sont pas, on va dire, nominatifs, où on n'est pas nommé concrètement vis-à-vis de ce patient, mais on est alors un référent de soutien. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner dans ses crises, on va l'accompagner dans ses demandes, et on va l'accompagner aussi dans l'écoute. Donc voilà, ça c'est primordial. Et on fait passer aussi l'information qu'on a, c'est-à-dire qu'on a aussi le rôle de passation d'informations concernant le patient aux professionnels de santé, qui est les psychiatres et les psychologues. Et on fait cette réunion au moins une fois par semaine, déjà tous les matins on a cette petite réunion, mais d'une façon condensée, mais le lundi c'est vraiment d'une façon beaucoup plus détaillée de tout ce qu'on a pu avoir comme information, et on fait un plan et un bilan de soins pour ce patient spécifiquement. Et aussi on est dans l'accompagnement aussi du soin somatique. C'est-à-dire, il y a aussi l'hygiène, donner des médicaments et l'accompagner aussi dans ses difficultés.
Comment se construit le lien entre un référent et la personne accompagnée ?
Le lien, il se construit petit à petit. De toute façon, on laisse venir le patient à nous. Nous, on n'impose rien. Et donc, on attend que la personne soit prête à vouloir de ce lien et vouloir changer son état. C'est-à-dire que des fois, ils arrivent et ils en ont marre de la situation dans laquelle ils vivent et ils veulent un changement, et il y a une main tendue qui est des soignants, qui fait que ce lien se crée presque naturellement en disant « ils sont là pour moi et j'en ai marre de ma situation et je veux évoluer. » Et je veux évoluer d'une autre manière pour dire « voilà, je veux quelque chose autre, plus sain, plus fonctionnel et avoir un avenir. » Et donc là, à ce moment-là, ils prennent cette main et le lien se fait avec ça. Avec beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, et on l'accompagne. Et il y a des fois, les patients, il y en a où il n'y a pas de lien, parce qu'ils ne sont pas prêts à ce moment-là. Ils ne le savent pas encore, c'est quand ils viennent ici qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts de créer ce lien et de laisser leur dysfonctionnement de côté, parce que leur dysfonctionnement leur permet de fonctionner, même si c'est dysfonctionnel. Je parle surtout des consommateurs. Les consommateurs, des fois, ils ne sont pas prêts à lâcher leur substance parce que pour eux, c'est tout ce qu'ils ont connu et c'est tout ce qui leur a permis de fonctionner dans ce monde avec tout leur trauma, avec tout leur truc, de mettre de côté leur problématique derrière ces substances. Et donc, il y en a qui se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts et que ce lien, entre parenthèses, est problématique de vouloir faire confiance, parce que quelque part c'est se jeter dans le vide sans substance, sans parachute. Et donc il y a des fois des patients où on a dû mettre les patients dehors parce que justement ils n'étaient pas prêts, même si ce lien on a essayé de le construire Et il faut que le patient soit prêt à l'accepter.
Alors, ça se construit. Bon, déjà, ce sera un lien de confiance. Et comment on fait pour le construire? Pour moi, ça sera trouver des moments individuels avec le patient. Pouvoir trouver des moments, en tout cas individuels. De toute façon, il faut faire des entretiens de référence. Et ça sera aussi de pouvoir l'observer, entendre ses besoins, l'accompagner dans ses besoins, si c'est possible, évidemment. Et donc, pouvoir observer et lui dire quand ça va pas, ben voilà, là, on voit que, enfin, j'ai vu que ça n'allait pas, qu'est-ce qui se passe, un peu le mettre sur le fait. Et ben, peut-être que là, la personne va se dire, ah ben effectivement, en fait, ben, on me voit, ou ah ben en fait, je sais pas tout cacher à mon référent parce qu'en fait, il me connaît. En tout cas, ici, ce que je montre, ou ce que je montre pas. Et donc, voilà, pour moi, là, le lien va se construire comme ça, c'est au fur et à mesure, mais c'est quand même surtout être présent, répondre aux besoins, accompagner dans les besoins, entendre les besoins, et pouvoir observer et dire quand ça va pas, et pouvoir l'entendre quand lui a quelque chose à dire qui ne va pas non plus, quoi. Donc,
Que faites-vous lorsqu'un lien ne se crée pas avec la personne ?
Je réponds, de toute façon, je suis assez spontanée. Quand ça ne se passe pas avec c'est possible, ça peut arriver. En général, c'est très rare quand ça ne passe pas par un soignant, un infirmier avec un patient. Mais des fois, on se rend compte que nous, on ne puisse pas l'aider parce qu'on n'a pas cette capacité peut-être d'infinité qui fait que on a peut-être la bonne attitude ou le bon fonctionnement pour que ça puisse être bénéfique pour lui. Alors on passe le flambeau à quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus compatible et qui est peut-être formé pour cette pathologie bien spécifique. Comme par exemple moi, j'ai fait la spécialisation des TOC, hein, des troubles compulsifs, le trouble obsessionnel compulsif. Et donc, à ce moment-là, je sais que j'ai cette patience, je sais que j'ai cette possibilité de faire tout un planning et de le suivre correctement. Mais tout le monde n'a pas fait cette formation, tout le monde n'est pas capable, entre parenthèses, de faire un bon suivi. Je ne dis pas que c'est impossible, mais qu'ils n'ont peut-être pas cette formation pour le faire. Et donc, en général, quand il y a un patient avec des TOC, c'est souvent moi la référente. Donc, on a des spécificités propres à chacun. Il y en a qui sont très doués pour les gens qui ont des traumas. Hein, comme Alison, elle est très douée pour les traumas. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... par exemple, on a des hommes qui sont beaucoup plus... ou un homme, un autre garçon pourrait plus se confier à lui. Donc moi, je parle vraiment que des fois, on s'adapte, que les garçons, on préfère avoir comme référent un autre garçon, qu'une fille préfère avoir un autre référent fille parce qu'elle a subi des traumas avec un garçon. Donc, on s'adapte. Et alors, à ce moment-là, on change ou on donne à la personne la plus qualifiée qui pourrait la suivre d'une façon bénéfique.
Comment éviter une relation de dépendance avec la personne accompagnée ?
La relation de dépendance, comment l'éviter ? Ben, en fait, il faut savoir mettre les limites directement, pouvoir dire aux patients qu'on est là pour les accompagner pendant leur hospitalisation, mais qu'on n'est pas là pour faire à leur place ou être une maman ou un papa de substitution, qu'on est là, on a une oreille attentive, il n'y a pas de problème, mais par exemple, tenir la main ou faire un câlin ou autre, ça, c'est pas, enfin, en tout cas pour moi, ça c'est pas possible parce que il faut savoir mettre cette distance, qu'on est disponible tout en mettant ses limites. Donc voilà. Et que voilà, si maintenant il y a trop de dépendance, si on n'arrive pas à mettre ses limites, ben en fait le patient va de nouveau, enfin l'hospitalisation va se terminer et le patient en fait il aura de nouveau ce sentiment d'abandon qu'il a peut-être vécu enfant. Et donc, en fait, ça va pas l'aider. Ça va faire pire que mieux. Et donc, savoir même quand tu les vois à l'extérieur, te dire « Ah, ça va, machin », mais pas, pas commencer à faire la bise, à prendre dans les bras, ou voilà. Ça, c'est mon avis. Ouais, c'est plus personnel. Évidemment, j'ai des collègues qui ne fonctionnent pas de la même manière. Mais moi, voilà, c'est directement, je mets mes limites. Je mets les limites, surtout.
Mon référent ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Dans les micro-trottoirs, il est souvent associé à une personne de confiance ou à un repère. Mais du côté des professionnels, ce rôle prend une dimension beaucoup plus large. Il s'agit d'accompagner, de soutenir, de créer du lien et de s'inscrire dans un travail d'équipe. Finalement, le référent est une figure essentielle dans l'accompagnement, même si son rôle reste parfois méconnu du grand public. Merci de nous avoir écoutés. Saba et Imen.
à tous, c'est Rita et Asia, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, surtout dans le travail social, l'engagement. Mais concrètement, ça veut dire quoi s'engager ? Est-ce que c'est juste faire son travail ? Ou est-ce que c'est parfois aller plus loin, même quand ce n'est pas prévu ? Bonne écoute !
Bonjour les filles, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible de me donner un mot sur l'engagement ?
Implication.
Responsabilité.
Détermination.
Persévérance.
Pour ce podcast, on est parti sur une situation que j'ai vécue en stage. Ce jour-là, alors que j'avais terminé ma journée, un résident devait se rendre à un rendez-vous médical important. Le médiateur, chargé de l'accompagner, étant absent, le rendez-vous risquait d'être annulé. Inquiet, il m'a demandé, en arabe, si je pouvais l'accompagner. Après avoir obtenu l'accord de mes maîtres de stage, j'ai accepté de rester pour l'aider. Je l'ai accompagné à son rendez-vous et j'ai assuré la traduction, ce qui l'a beaucoup rassuré.
Suite à la situation, nous nous sommes posé plusieurs questions. Pourquoi Asia et pourquoi pas une autre ? Voici nos questionnements et différents points de vue.
Moi, c'est Ouda Bachar, je suis en troisième et j'ai mon stage de deuxième, AIP deuxième quoi.
Pour commencer, qu'est-ce que l'engagement signifie pour toi dans le cadre d'un stage ou d'un travail social ?
Moi, pour moi, l'engagement, c'est avoir un but personnel ou professionnel et s'y atteler avec envie et entrain.
À partir de la situation évoquée tout à l'heure, en quoi peut-on parler d'un acte d'engagement selon toi ?
Je trouve que tu as été engagé, mais plus que ça en fait, parce que c'était en dehors de tes heures de stage. Du coup, à mes yeux, c'était plus que de l'engagement. du dévouement. Pour moi, c'est un dévouement total. Et tu donnes de toi-même et de ta vie privée, je dirais.
L'engagement professionnel doit-il aller au-delà des missions prévues, selon toi ?
Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas que ça devrait aller au-delà des missions prévues. À moins que tu soulèves d'autres choses qui font que ça devient des missions. Mais sinon, au-delà, non. Je ne trouve pas que ce soit correct. Parce que maintenant, vu ta situation, on va en venir au cours de philosophie logique éthique. Pour moi, si tu as fait ça avec une personne, il faut que tu sois capable de le faire avec tout le monde. Et je pense pas que tu serais d'accord avec le fait d'emmener tout le monde à leurs rendez-vous médicaux et que ça ne te gênerait pas. Je pense que ça ne te gêne pas une fois, mais plusieurs fois, non. Question morale, il me semble. Voilà. C'est Kant qui disait, si tu peux le faire avec une personne, il faut que tout le monde puisse le faire et que tu sois capable de le faire avec tout le monde aussi. Tu vois comment ? Donc voilà, je pense qu'au final, ça t'userait.
Je m'appelle Valérie Messel. J'enseigne à des futurs profs et futurs éducateurs spécialisés depuis presque 15 ans maintenant à Defray. Au départ, je suis pianiste, j'ai fait le conservatoire, prof de musique, mais j'ai nouvellement obtenu un master en sciences de l'éducation. Et j'espère pouvoir pratiquer en tant que psychopéda à partir de l'année prochaine.
Pour vous, qu'est-ce que l'engagement signifie dans le cadre d'un stage ou d'un travail social ?
Alors c'est très vaste. S'engager, c'est d'abord avoir une attitude professionnelle, c'est-à-dire des choses basiques mais qui sont fondamentales, arriver à l'heure, dialoguer correctement avec l'équipe. Ça, c'est pour la base. Et puis s'engager, pour moi, c'est en effet avoir une casquette de professionnel, mais qui est reliée quand même un peu toujours à la partie plus personnelle de soi. Ça me paraît difficile de s'engager pleinement si on n'est que un éduc et qu'on n'y met pas une part de nous. La frontière est très ténue. Et voilà, la question de la distance professionnelle intervient dans cette question. Et pour moi, l'engagement, c'est respecter les missions qui nous sont conférées, c'est s'engager pleinement avec les bénéficiaires, c'est les écouter, c'est être là, c'est s'engager avec l'équipe. Voilà, c'est très très vaste.
À partir de la situation d'Asia qui a été présentée, en quoi peut-on parler d'un acte d'engagement selon vous ?
Cette situation me touche et elle rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que par exemple le fait que l'étudiante stagiaire peut s'exprimer en arabe, là clairement c'est quelque chose qui vient de son vécu, de sa vie privée et qui apporte un plus en fait aux bénéficiaires. Et la décision d'aller avec les bénéficiaires à l'hôpital, c'est pas forcément dans ses missions, c'est pas dans son rôle de l'éduc, mais elle l'a fait en tant qu'humain, en fait, citoyenne. Et heureusement, ce qui est le plus difficile en tant qu'éducateur, c'est qu'on fait ce métier avec tout notre cœur, et que bien sûr qu'il faut garder une certaine distance, parce que sinon on est absorbé par le métier et on ne tient pas le coup au niveau des émotions. Et en même temps, il faut parfois pouvoir donner un petit peu plus que ce qui est écrit dans les textes.
Quelle serait la limite ?
Je pense que ça, c'est propre à chacun. Dans le cadre de mon travail, je sais que je dépasse parfois le cadre de frais des missions pour lesquelles je me suis engagée, c'est-à-dire que j'ai parfois des contacts avec des étudiants ou étudiantes par téléphone pour régler des situations compliquées, parfois des messages WhatsApp avec des enregistrements. Donc je parle en tant que prof de musique et d'encadrante de stage. Et là, clairement, je ne suis pas obligée de faire ça. Les étudiants et étudiantes que j'accompagne pour leur TFE, en fait, c'est moi qui décide, qui jauge. En fait, avec les années, on se connaît mieux où je dois mettre la limite pour à la fois me sentir pleinement engagée et soutenante avec les étudiants et pas me sentir complètement envahie et n'ayant plus d'énergie et n'ayant plus finalement efficace, quoi.
Se protéger soi-même doit toujours être quelque chose à laquelle on doit aussi penser.
Oui. Ça s'apprend avec les années. Je sais qu'au début, j'avais beaucoup plus de mal, donc je laissais un peu. Je travaillais même pendant les vacances. Bien sûr, il faut parfois se protéger. Ce qui est parfois difficile, c'est que le système ne permet pas toujours de se protéger. On est parfois, et c'est pas mon cas, j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que pour certains collègues, la réalité du terrain fait que je peux pas faire autrement si je veux travailler à temps plein, donc voilà, on s'adapte.
Je suis en troisième année en section éducation spécialisée à Defray. Pour moi, l'engagement dans le cadre d'un stage ou dans un travail social, c'est de s'assurer, répondre pleinement aux besoins du public qu'on accompagne. Je trouve que tu as fait preuve d'acte d'engagement car tu as modifié quelque part ton horaire avec l'accord bien évidemment de la maître de stage, donc toujours dans un cadre institutionnel. Donc, déjà de ce point de vue-là, tu as fait preuve de professionnalisme. J'ai à répondre à la demande et aux besoins de ce résident-là qui devait avoir du coup son rendez-vous médical d'urgence et qui avait besoin d'un médiateur. Donc tu t'es engagé à retarder ton horaire ce jour-là pour pouvoir répondre au mieux à sa demande. Et moi, je dirais que ça dépendrait des situations, surtout en cas d'urgence. Par exemple, la situation auparavant, qui est, j'imagine, une situation d'urgence, vu que c'est médical, etc. Donc, je pense que quand ça parle d'urgence imminente, je trouve que oui, l'engagement professionnel peut aller au-delà des missions de l'éducateur ou d'institution. Et si cela peut attendre, on propose autre chose ou on à notre public de comprendre notre engagement et notre cadre.
Pourquoi ce résident est venu vers moi ? Je pense que je l'ai fait par empathie et parce qu'il me faisait confiance. Je savais que ce rendez-vous était important pour lui et je pouvais réellement l'aider, notamment grâce à la langue. Même si mon stage était terminé pour la journée, ça me semblait naturel de rester.
Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Et qu'est-ce que l'engagement représente pour vous ?
Vous avez écouté le podcast de Rita et Asia, deux futures éducatrices spécialisées. Merci pour votre écoute
et à bientôt. Got big dreams and a big
Chica, want cute chick in a kuka. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart. Want a cute chick in a kuka. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last, last, last. Je gère avec le refrain, mais moi je suis plutôt casé. Toc à la fin du mois, y'a de quoi me payer loyer. J'ai une belle go avec qui ça fait des années. Que c'est carré, ouais c'est carré. I'm just too big, yeah, they fuck you up. Press a coup too big, don't know who to trust. I'm not be there yet, but I won't give up. Nah, 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 I can't give up. Got big dreams and a big heart. Want a cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart. Want a cute chick in a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last, last, last. Don't need to go fast. If she pricey, then we won't last, last, last.